Retrouvez chaque samedi 10h sur Radio Sophia Altitude l'émission Justice et Paix, animée par Domi.
École, catéchisme à Sainte-Rose-même.
Oui, nous étions au catéchisme au bout le mardi.
Une émission en partenariat avec Radio Bain-Saviel. Justice et Paix donne la parole au monde associatif, politique, social, sportif, culturel.
Je crois qu'il faut quand même que les. On puisse remettre l'agriculture aux mains des enfants.
Le sport est un vecteur de relations sociales.
Justice et paix, les problématiques sociétales avec une vision chrétienne.
Mais aussi marcher aussi vers Dieu, marcher vers un idéal, marcher vers un but.
Bonjour à vous qui êtes à l'écoute de cette nouvelle émission de la Commission diocésaine Justice et paix. Avec moi, Dominique Mugerin. Nous allons revenir dans cette émission sur cette conférence débat qui a eu lieu à la salle paroissiale de Prise d'eau au mois de janvier dernier, avec comme intervenants messieurs Maurice Bivionnière et Alain Plaisir, et comme modérateur monsieur Robert Valérius. Nous, commission diocésaine Justice et Paix, avions choisi ce thème de l'autonomie économique de la Guadeloupe, et tellement de belles choses ont été dites au cours de cette matinée que cette émission se fera en deux parties. Nous allons donc aujourd'hui commencer par cette première partie, et la prochaine fois, nous allons écouter la deuxième partie. Elle fut intense, elle fut intéressante, il y avait beaucoup d'interventions, les gens ont participé. Nous allons commencer avec un membre de la commission diocésaine Justice et Paix, Marie-Annette, qui nous a fait prier. Et après, nous allons rentrer dans le vif du sujet.
Bonjour à tous. Monsieur Billionnaire, Monsieur Alien Plaisir, merci d'avoir pris un temps pour venir travailler avec nous. Ce mois de janvier 2026 nous a fait entrer dans une nouvelle année pleine d'espérance. Après ce jubilé que nous venons de vivre, après les fêtes de Noël et du jour de l'an, beaucoup portent dans leur cœur une joie mêlée de fatigue et d'incertitude. Suite à tous les événements inattendus, incompréhensibles et d'insécurité survenus dans les premiers jours de l'année, la fête de la Sainte Famille est arrivée le quatrième jour pour nous rappeler que la vraie harmonie se construit en ouvrant des chemins de pardon, malgré les conflits, les difficultés, ce qui nous permettra de regarder l'autre avec bienveillance et de l'accepter en reconnaissant nos propres défauts, nos imperfections, et faire un geste ou dire un mot de réconciliation qui fera germer la paix. Je forme le souhait que l'année 2026 soit pour nos foyers, pour nos enfants, pour nos familles, une année de grâce. Et je demande au Christ lumière d'éclairer et de bénir chacun de nos familles, ainsi que les frères et sœurs qui n'ont pas pu être avec nous ou qui sont en route. Et nous prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, bénis toutes les familles de la terre. Je t'en prie, ô Seigneur, bénis aussi la mienne. Seigneur, bénis toutes les familles de la terre. Je t'en prie, ô Seigneur, bénis la mienne aussi.
Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus en ce temps de carnaval pour participer à cette réunion qui a été mise en place par la commission Justice et Paix et qui a pour thème aujourd'hui l'autonomie économique. Avant de commencer, je vais vous présenter à titre personnel les vœux de bonnes et heureuses années, de santé, de sérénité et de paix, et que la vie continue dans l'harmonie autant que faire se peut. Je voudrais excuser M. Étienne Crane, qui est à une situation de santé très délicate, très difficile, et qui aurait bien aimé être là avec nous. Étienne Crane, beaucoup de Guadeloupéens le connaissent parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en Guadeloupe pour faire émerger une production guadeloupéenne dans beaucoup de domaines. Et il peut être considéré comme un exemple, avec d'autres, certes, pour la responsabilité guadeloupéenne, en tout cas dans la production agricole. Ensuite, je vais présenter celui qui est à ma gauche, M. Billionnaire, qui est universitaire, qui a fait toutes ses études en Guadeloupe, et je suis ravi de le dire. Je vous le dis vraiment, parce qu'il y a peu, aujourd'hui, de jeunes étudiants qui acceptent de vivre dans ce pays, de porter une richesse à ce pays. Et c'est un jeune. Et je le dis vraiment avec beaucoup d'émotion. J'aurais aimé que beaucoup de jeunes Guadeloupéens reviennent dans ce pays pour porter leur richesse, parce qu'ils sont riches de beaucoup de choses qu'ils ont appris à l'extérieur. Mais lui, il est resté en Guadeloupe, il a fait son cursus en Guadeloupe, et il est universitaire aujourd'hui, et il transmet à de jeunes Guadeloupéens. Et c'est ça qui est le plus important. Et à ma droite, Alain Plaisir, que nous connaissons tous, qui est un ancien cadre haut fonctionnaire de la douane, qui a beaucoup œuvré pour réfléchir sur la Guadeloupe, qui est un ancien syndicaliste, qui a produit aussi des ouvrages et qui porte la volonté d'une Guadeloupe responsable. Nous avons choisi ces deux personnalités pour nous éclairer, pour nous porter la lumière, mais aussi pour échanger. Et l'important, c'est ça, en fait, que nous échangions tous sur notre pays, ce pays que nous aimons, dans lequel nous vivons, que nous souhaitons qu'il aille de l'avant, parce que, finalement, c'est là nous y est, c'est là nous qu'à vivre. Et cela nous fait avancer aussi. Je passe la parole à Maurice Billionnaire.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation qui m'a été faite par M. Arnoulin et M. Valérius, qui m'offrent l'opportunité d'être devant vous aujourd'hui pour débattre d'un thème, l'autonomie économique de la Guadeloupe. Je pense que c'est un thème qui nous intéresse en fait tout un chacun en tant que Guadeloupéen. Déjà, selon moi, lorsqu'on parle d'autonomie économique, il faudrait déjà savoir où on se situe dans ce terme, parce qu'il peut être assez vaste. Autonomie, selon moi, ce serait la capacité d'un territoire à pouvoir penser son développement économique, sa croissance, en ayant une certaine indépendance vis-à-vis des ressources, vis-à-vis de l'extérieur. On sait actuellement que la Guadeloupe, quand même, fait face à de nombreux défis. Je pense, après avoir échangé aussi avec M. Valérius en amont de la rencontre, on est actuellement en discutant tous ensemble, qu'il y a des défis qui sont assez connus par tout le monde. Vous avez très certainement entendu parler du vieillissement démographique actuellement en Guadeloupe. Nous faisons partie, avec la Martinique, des régions françaises les plus vieillissantes. Donc ça, c'est déjà un défi pour le territoire guadeloupéen. On est également, depuis 2010, sur une réduction de la population. Donc la tendance, elle est, depuis 2010, à une perte de population. Je crois que dans une étude de l'INSEE, c'était des équivalents de la commune du Lamantin et de Basse-Terre en moins, je crois, ou sur depuis 2010, quoi, en termes de perte de population. Si je ne me trompe pas, il faudrait vérifier, mais il y avait une étude de l'INSEE qui était sortie en ce sens. Donc un territoire vieillissant, c'est un territoire justement qui peut témoigner d'un certain manque de dynamisme. Il y a aussi d'autres défis qui sont même liés au caractère insulaire du territoire guadeloupéen, puisque par nature, nous sommes une île, donc on a un marché qui est déjà plus limité que le marché, par exemple, français, le marché européen ou d'autres territoires qui sont plus grands. Donc cette étroitesse fait qu'il y a également des coûts logistiques supplémentaires à prendre en compte. Et donc tous ces aspects rentrent dans cette question de l'autonomie économique. Il y a également aussi le défi agricole, puisque actuellement, la Guadeloupe est configurée autour de deux productions historiques essentielles issues un peu de son histoire, hein, donc c'est-à-dire, comme vous connaissez tous, la canne à sucre et la banane. Actuellement, ces productions ne sont pas autonomes, c'est-à-dire que si nous ne recevons pas les subventions, le financement extérieur de la France et de l'Europe plus largement, ce sont des productions qui ne sont pas compétitives et qui auraient déjà dû être arrêtées pour produire autre chose. Qui dit autonomie économique aussi ne dit pas forcément être en autarcie, se replier totalement sur soi et vouloir tout produire, peu importe le coût. Parce qu'il y a quand même une logique économique derrière toute production. Donc l'autonomie, il faudrait la penser en ayant également plus de champs d'action en termes politiques également. Actuellement, le statut politique que nous avons en Guadeloupe n'est pas forcément le plus adapté pour pouvoir aller vers cette autonomie économique, puisqu'il n'y a pas une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir prendre les décisions qui seraient adéquates pour aller vers cette autonomie économique. Donc il faudrait également une évolution en termes politiques. Donc il faudrait aussi que nos décideurs politiques aient une vision pour le territoire et qu'ils puissent prendre les choses en main concrètement, parce que nous, on aura beau échanger, tant qu'il n'y a pas une action concrète en termes de politique, on ne pourra pas forcément aller vers cette autonomie économique. Donc il y a tous ces aspects et ces défis en fait auxquels nous sommes confrontés actuellement, qui selon moi, en fait, il faudrait vraiment améliorer. Quand on parle d'autonomie économique aussi, il faudrait qu'on parle de temporalité, c'est-à-dire c'est sûr qu'on ne peut pas l'envisager dans l'immédiat, ce n'est pas pour demain. Quelle est la temporalité idéale? Mais il ne faut pas non plus négliger certaines étapes pour pouvoir bien mettre en place les choses. Donc il y a en fait un peu d'aspects à évoquer. Donc dans l'absolu, c'est ce qui me vient. Après, avec les échanges, on pourra toujours approfondir certaines notions. S'il y a certaines choses que j'ai pu dire qui suscitent un peu des réflexions, des questions, on pourrait entrer plus en profondeur dans le débat. Voilà un peu ce que je pourrais dire déjà au début pour lancer cette discussion.
Présentation concrète.
Radio Sofaya, la Caraïbe en altitude. Sofaya altitude.
Maintenant Alain, tu as la parole.
Bonjour à tout le monde. Alors moi je vais donner quelques chiffres parce qu'on ne peut pas parler d'économie sans parler de chiffres. J'ai la chance d'avoir travaillé beaucoup sur le sujet. Je suis auteur de plusieurs livres dont le premier date de 2008. Il s'appelle Conquête du marché intérieur. Ça tombe bien ce débat puisque on est en plein là-dedans. Autonomie, l'autonomie économique. Effectivement, comme l'a dit notre ami, hein, on ne peut pas parler d'autonomie économique sans parler d'autonomie politique, puisque les deux, à mon avis, vont ensemble. En fait, je vais plutôt porter l'accent sur l'aspect économique. Alors, je vais donner quelques chiffres quand même pour montrer qu'on est très loin de l'autonomie économique. Surtout si on prend le domaine agricole, hein, puisqu'on parle souvent ici de souveraineté alimentaire, on est très très loin de la souveraineté alimentaire, on est même à reculons. C'est-à-dire au lieu d'aller dans le sens de la souveraineté, on va dans le sens de la disparition de la production agricole. Je vous donne quelques chiffres. Hein. Si on prend les productions traditionnelles, le sucre, le record, c'est en 1965, on a fait 187 000 tonnes de sucre. L'an dernier, on avait péniblement 45 000 tonnes. Depuis quelques années, on est en dessous de 50 000 tonnes. Ça veut dire qu'il y a un déclin irrésistible de la production de sucre. Et on risque d'être dans quelques années comme la Martinique qui n'exporte plus de sucre. Nous, on exporte encore un peu. mais la Martinique n'exporte plus. Et même l'an dernier, je crois que la Martinique achetait du sucre. Donc, faut pas penser que on a la canne comme ça, ça va rester éternellement, ça risque de disparaître. D'autant plus que pas la France qui décide des traités, c'est l'Union européenne signe des accords de libre échange avec d'autres pays qui sont producteurs de sucre. Et plus récemment, hier encore, l'Europe a signé un accord avec le Mercosur. Et au Mercosur, il y a le Brésil qui est le deuxième producteur de sucre du monde. Et cet accord prévoit justement que le sucre du Brésil pourra rentrer sans droits et taxes en Europe. Donc, c'est une concurrence pour notre production, surtout pour la Réunion, parce que la Réunion produit encore beaucoup de sucre. Nous, on produit très peu, mais enfin, ça existe encore. La banane, c'est aussi le déclin. On avait un quota de 150 000 tonnes. On a fait l'an dernier 70 000 tonnes, donc à peu près la moitié. Et on est autour de cette quantité. Et les gens qui font la route près de la ville de Basse-Terre voient très bien qu'il y a beaucoup moins de bananeraies qu'avant. Ce qu'on appelait les bananeraies de montagne, ben ça a disparu. Il n'y a pratiquement plus de bananes à Groubert, à Trois-Rivières. C'est surtout dans la région de Capesterre qu'on fait de la banane. Bon. Déclin des productions traditionnelles, donc déclin des exportations. On pourrait penser qu'il y a moins d'exportations, de cultures d'exportation, mais on produit pour nourrir la population. Hélas, non, on produit de moins en moins. Alors je donne quelques chiffres que j'ai récupérés hier, hein, de l'IEDOM. Si vous voulez vous informer, l'IEDOM fait un rapport annuel chaque année et ça donne des chiffres très intéressants, des chiffres actualisés. Et dans tous les domaines, hein, domaine de l'agriculture, des finances et tout ça. Je donne quelques chiffres. Notre taux de couverture pour légumes et fruits, c'est 55%. C'est-à-dire qu'il y a 45% des fruits et légumes qui arrivent d'ailleurs. Les bovins, 28% le taux de couverture. C'est-à-dire qu'on a plus de 70% de la viande que nous mangeons ici qui viennent de l'extérieur. Le porc, le taux de couverture, c'est 14%. C'est vrai qu'il y a des gens qui tuent des porcs ici, mais enfin, le porc que nous mangeons, en gros, vient de saler, enfin, tout ce que vous voulez, et qui accroche tout ça. La viande qu'on vend dans les surgelés, ça vient de l'extérieur. Et volailles, c'est encore pire. Les volailles, c'est 10%. 10%. Le taux de couverture, c'est 10%. C'est-à-dire 90% des volailles que nous consommons, les fameux poulets grillés que nous achetons, hein, eh ben ça, les poulets ne viennent pas d'ici. Ça vient de France, de Bretagne, ça vient d'Irlande, ça vient de Grande-Bretagne, et ça vient même d'Ukraine. Quand je lis quelquefois des gens qui sont dans la production, qui parlent de la souveraineté alimentaire, c'est malhonnête parce qu'ils vont faire croire aux gens qu'on est tout prêt d'atteindre ce but, alors que non, on est dans la phase de déclin. Donc il faut faire quelque chose. Alors ça, j'ai pris des chiffres pour le production agricole, mais si on prend le chiffre global, tout confondu, hein, les produits bien d'équipement, en 2009, nous avons acheté en Guadeloupe 1,9 milliard d'euros de marchandises. L'an dernier, on a acheté 5 milliards de marchandises qui viennent à 70% de la France et de l'Union européenne. Très peu viennent des États-Unis ou ailleurs. Ça vient de l'Union européenne. Ça a un sens aussi. Hein. Ça vient pas d'à côté, ça vient pas du Brésil, ça vient pas du Venezuela, ça vient même pas des États-Unis, ça vient de l'Union européenne, 70%. Avec un peu du Japon, comme les voitures, un peu de la Corée. Mais en fait, c'est surtout, on est vraiment comme à l'époque coloniale. Le peu que nous vendons, on vend à l'Union européenne. Et tout le reste, pratiquement, arrive de l'Union européenne. Donc la métropole, c'est quelque chose à retenir. La métropole pour nous maintenant, dans le sens colonial, c'est plus la France, c'est l'Union européenne. Pour vraiment parler d'économie, on est obligé de prendre en compte le contexte international. Si on veut trouver des solutions, parce que bon, le constat, tout le monde peut le faire, hein, comme je vous le dis, hein, vous allez à l'IEDOM, vous avez tous les chiffres. Mais si vous voulez faire quelque chose pour changer, eh bien, il faut comprendre comment fonctionne l'économie mondiale. Il y a trois éléments de la mondialisation. Les transports rapides, avant c'était des voiliers ou des paquebots qui prenaient 10 jours. Maintenant, vous avez des porte-conteneurs. Un porte-conteneur peut amener des milliers de conteneurs. Ça n'existait pas avant. Donc ça, c'est une révolution. Il y a la révolution numérique, les télécommunications. Vous pouvez ici passer commande au Japon avec votre portable pour commander une marchandise. Ça n'existait pas non plus. Et le plus important, c'est le libre-échange que les multinationales ont mis en place, parce que les multinationales considèrent que le marché national est trop étroit, puisque une multinationale, c'est pour faire des profits. Un marché national où il y a une frontière, je vends en France, mais je ne peux pas vendre en Allemagne, eh bien, ça n'arrange pas les multinationales. Donc, ils ont mis en place la mondialisation Et dans la mondialisation, il y a des instruments. C'est l'Organisation mondiale du commerce qui a décidé de supprimer les barrières douanières, tarifaires, techniques et tout ça pour permettre les échanges. Et nous sommes là-dedans. Quand Trump dit « je vais mettre 10%, 20% de droits douane », c'est parce que maintenant, il n'y en a presque pas. Et donc, on est dans ce système-là. Bon. L'autre élément du contexte qui nous concerne personnellement, c'est l'Union européenne. Nous sommes dans l'Union européenne et l'Union européenne, c'est 27 pays. Il y en a 28, il y en a un qui est parti, c'est le Royaume-Uni ou de Grande-Bretagne, mais on a 27 pays. Et nous sommes une région de ces 27 pays. Et à l'intérieur, depuis le 1er janvier 1993, les marchandises, les personnes, les services circulent librement entre ces pays-là. Eh bien, il n'y a plus de frontières physiques entre la France et l'Allemagne, entre la France et la Belgique, entre la France et l'Italie, entre la France et l'Espagne. Vous prenez votre voiture, vous passez la frontière. Alors qu'avant, il y avait une barrière et il y avait des douaniers là, en sortant, et il y avait des douaniers à l'entrée. Ça n'existe plus. Vous prenez votre voiture, vous prenez l'autoroute du Nord et vous allez en Belgique directement. Et les camions, c'est pareil. Hein. Les camions pleins de marchandises. Et nous sommes là-dedans. Donc ces marchandises arrivent aussi librement. C'est 27 pays où les marchandises circulent librement. Mais aux frontières de l'Europe, ils ont un tarif douanier. Ils se protègent quand même. Ils se protègent des autres pays. Plus ou moins, mais ils se protègent quand même. Hein. Alors, à titre d'exemple, une voiture qui vient du Japon va payer 10% en rentrant en Europe, en Union européenne. Mais comme nous sommes l'Union européenne, cette voiture-là qui vient du Japon, va payer aussi les 10%. Bon, et par contre, si c'est une Volkswagen qui rentre en Guadeloupe, ça ne paiera pas les 10%. Il faut bien comprendre comment on se situe là-dedans. Alors, ces pays-là ont un tarif douanier commun, et nous, en Guadeloupe, on a le même tarif. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on va se protéger des poulets qui viennent de Roumanie ou d'Ukraine, puisqu'on est dans l'Union européenne. Et l'Union européenne, c'est la libre circulation. Donc, alors, il y a l'octroi de mer, mais enfin, l'octroi de mer, peut-être qu'on fera, on en parlera un autre jour, mais ça ne protège pas réellement. Ça ne protège pas réellement parce que c'est pas basé sur la quantité, c'est basé sur la valeur. Alors quand c'est une valeur qui est très importante et que vous mettez 10%, ça a un sens. Mais si vous avez une marchandise qui a une valeur très faible, comme par exemple l'igname qui arrive au port de Pointe-à-Pitre, j'avais des documents, qui arrive à 69 centimes, vous mettez 10%...
Pour ceux et celles qui nous rejoignent maintenant, nous parlons de... La conférence débat qui a eu lieu à la salle paroissiale de Prisdo au mois de janvier sur l'autonomie économique de la Guadeloupe avec Maurice Billonnière et Alain Plaisir.
Puisqu'il parlait de l'autonomie, je pense qu'il faut mettre en place un système, il faut se fixer un objectif. L'objectif, c'est plus faire comme on a fait à l'époque coloniale en pensant qu'on va produire pour exporter. Parce qu'on aura de plus en plus de mal à exporter, puisqu'on est dans un contexte de mondialisation où nos produits, que ce soit le sucre et la banane, sont plus chers que ceux qu'on fait ailleurs. D'ailleurs, pourquoi la banane, la production a baissé? C'est parce que l'Union européenne achète la banane dans la zone dollar, et c'est beaucoup moins cher. Alors, jusqu'à présent, ces bananes, Guadeloupe et Martinique, surtout Martinique. Hein, la Martinique produit 2,5 fois plus que nous. Hein, c'est où il y a les béquets qui détiennent les lobbies. Ici, on donne un petit complément. Mais la puissance, c'est vraiment les béquets martiniquais et qui ont un lobby très puissant, qui s'appelle l'Eurodom, très influent auprès de Bruxelles. Mais malgré ce lobby, les multinationales américaines ont fait un procès à l'Union européenne. On dit, ah, c'est pas normal. Nous sommes dans un cadre de mondialisation. Et vous taxez nos bananes. Ce n'est pas des bananes à eux, mais c'est des bananes qui se trouvent à Costa Rica, à Panama, au Salvador, qui est dans la zone douanière. Mais ce sont des multinationales américaines. Et donc, ils ont gagné ce qu'on appelle la guerre de la banane. Et ça a obligé les Européens à supprimer une taxe qu'on appelle le prélèvement, à supprimer ça. Il y a un délai pour que progressivement les droits de douane disparaissent. Quand l'accord a été signé, c'était 175 euros. La tonne d'importation, ça a baissé progressivement. Maintenant, je crois qu'on a 70 euros. Les béquets, Martinique, je dis béquets parce que c'est ça hein, la réalité. Hein. Comme ils sont bien informés, ils savent que la banane n'a plus d'avenir, ils ont commencé à acheter des terres en Afrique, Côte d'Ivoire, ailleurs, et ils achètent des licences, ils achètent de la banane de la zone dollar. et qu'il faut rentrer en Europe. Voilà, ils ont les licences. Donc, bon, ben nous, on a des gens qui ne sont pas très puissants, donc ils suivent un peu. Mais je vous le dis parce que j'ai étudié la question en long et en large. J'ai même fait un article qui s'appelait « La guerre de la banane et la Guadeloupe a perdu cette bataille ». Évidemment, ça ne parle plus aux autres, mais moi, je donne des éléments, je donne des chiffres, hein, je donne des traités, tout ça. Bon. Donc, on a des problèmes. Par contre, on a une possibilité. Vous avez vu les chiffres, hein, on achète beaucoup de poulets. Pourquoi on ne pouvait pas faire des poulets en Guadeloupe? Pourquoi on ne pouvait pas faire plus d'élevage en Guadeloupe? Pourquoi on ne pouvait pas faire plus de lapins? Pourquoi on ne pouvait pas faire plus de légumes? On peut le faire. On a des terres agricoles, on a un climat qui est favorable, mais il faut donc mettre en place un système qui est un peu révolutionnaire parce qu'il est différent de ce qui se passe maintenant. Alors ce système-là, je vais le résumer rapidement, c'est dire premièrement, il faut protéger notre production. Pas avec l'octroi de mer, parce que je viens d'expliquer que ce n'est pas efficace. Avec ce que j'appelle des prélèvements agricoles. Un prélèvement agricole, c'est une taxe qui est variable. Donc, c'est une taxe qui va fluctuer en fonction de la baisse ou de l'augmentation du produit importé. Le plus souvent, le produit importé, il baisse. Parce que le marché mondial, il baisse. Bon, sauf des cas exceptionnels, mais enfin, il baisse. Donc, vous mettez une taxe qui permet donc de prélever sur cette importation. Et cet argent-là, vous n'allez pas le mettre ni au conseil régional, ni au conseil général, ni aux communes. Vous allez créer des fonds d'intervention. Et ces fonds d'intervention permettront de donner un complément de recette aux producteurs guadeloupéens. Je prends l'exemple de l'igname. J'avais inquiété à l'époque auprès des producteurs de Guadeloupe. Ça date de plus de 10 ans quand même. Hein. Pour ne pas perdre de l'argent, il fallait qu'ils vendent un kilo d'igname à 1,50 €. Bon, ben maintenant c'est plus, hein. Mais à l'époque c'était 1,50 €. Mais l'igname qui vient de Costa Rica, arrivant au port à 62 centimes, en ayant payé l'octroi de mer, la TVA et tout ça, c'était environ 1,80 €. Donc on voit bien que notre igname, il n'est pas compétitif parce que j'avais pris le chiffre à l'époque à 1,50 €. Et nous, nos producteurs ne peuvent pas vendre à 1,50 €. S'ils vendent à 1,50 €, ils perdent de l'argent. C'est comme s'ils travaillent pour rien. Donc eux, ils vendaient à 2,25 € à l'époque. Donc il y avait un écart de 75 centimes. Donc si vous êtes un système comme ça, le consommateur, comme il n'a pas beaucoup de moyens, il a beau être guadeloupéen, il a beau dire pour nous manger vite à nous, eh bien, quand il va au supermarché, il va avoir un igname de Costa Rica qui coûte 1,50 € et ton igname qui coûte 2,25 €, il achète celui de Costa Rica. C'est ça la réalité, hein. L'économie, ce n'est pas le sentiment, hein. L'économie, ce sont les chiffres. Alors prenons l'exemple, cet exemple-là, vous allez mettre une taxe de 70 € le quintal. Si vous le divisez par 100, ça fait 70 centimes. Et ces 70 centimes-là, vous allez le donner au producteur, mais vous faites signer un contrat à ce producteur. Vous dites, bon, le prix de référence, nous, on fixe un prix de référence. C'est pour ça que c'est un peu autoritaire, mais on est obligé. Hein. On fixe un prix de référence pour vendre sur le marché guadeloupéen, c'est 1,50 €. Vous n'allez pas pouvoir vendre à 1,50 €. Eh bien, on va vous donner 70 centimes pour que vous puissiez vendre à 1,50 €. Et celui de l'importation, on va chérir son prix pour qu'il ne puisse pas vendre en dessous de 1,50 €. Et donc, le consommateur, il perdrait un peu, puisque s'il achète, le produit importé lui coûterait plus cher, mais on n'a pas le choix. Si on veut sauver la production guadeloupéenne, il faut faire en sorte que le produit importé coûte plus cher et que le produit guadeloupéen il coûte moins cher. Et c'est ce mécanisme-là que je préconise, que je n'ai pas inventé, hein. Je ne suis pas encore à ce stade, mais je suis inspiré de ce que l'Europe a mis en place après la guerre pour pouvoir relever son agriculture, ce qu'on appelle la PAC. C'est une politique qui n'est pas une politique libérale, c'est une politique où on dirige, on fixe le prix, prix de référence, prix d'intervention et tout ça. Et donc, on peut adapter ce système-là à la Guadeloupe en faisant en sorte que la douane qui prélève cette recette-là irait au producteur. Comme en France, si on finance le sucre, c'est parce qu'il y a un fonds d'intervention en Europe qui permet de financer les producteurs de sucre. Et vous avez entendu aussi des montagnes de beurre, des montagnes de lait qu'il y avait parce qu'on donnait de l'argent aux producteurs. Ils ont produit tellement qu'ils ont accumulé des montagnes de beurre. Nous, on est loin du compte. Nous, on est au stade où il faut vraiment sauver la production, ce qui reste, et l'augmenter. Et donc, voilà ce que je préconise en tant que mécanisme économique. On ne peut pas le faire ici. On vient de dire qu'on est une région européenne. une région européenne n'a pas un système douanier propre. Le système douanier, c'est le système douanier de l'Union européenne. La France même n'a pas de système douanier. La France applique le système douanier européen, ce qu'on appelle le TEC, tarif extérieur commun. Donc, il faut qu'on ait le pouvoir de le faire. Le pouvoir, on ne peut pas l'avoir au niveau de la région. Et donc, nous, le parti politique où je suis, on préconise une autonomie dans le cadre du PTOM, c'est-à-dire Pays Territoire d'Outre-mer. Il y en a un qui est d'actualité, c'est le Groenland. Le Groenland dépend d'une Danemark. Ils ont même un Premier ministre. Ils sont autonomes, mais le Danemark a les pouvoirs régaliens, l'armée, la justice, en fait, ce sont deux choses. Ça peut se discuter, ça peut se négocier. Mais on n'est pas indépendant, mais on a quand même beaucoup plus de pouvoir que maintenant pour mettre en place de nouveaux moyens pour développer le pays. Donc voilà, le statut de pays, territoire d'outre-mer, et pour ne pas effrayer les gens qui pensent que c'est l'indépendance, souvent on fait l'amalgame. Un pays et territoire d'outre-mer fait partie de la République. Et vous en avez à côté de nous, hein, Saint-Barthélemy, c'est un PTOM, et pourtant c'est français. Saint-Martin, la partie hollandaise, c'est un PTOM. Curaçao, c'est un PTOM. Groenland, c'est un truc. Nouvelle-Calédonie, Polynésie, donc on n'est pas dans un système où casse-code. Il faut casse-code, mais pour l'instant, nous pensons que la situation, c'est plutôt un statut de large autonomie. Voilà, je vous remercie. Merci de votre écoute.
Voilà. Alors maintenant, vous avez entendu, vous avez écouté. Maintenant, posez des questions, vous faites part de désaccords, d'accords, des questions pour comprendre.
Merci Monsieur Maurice et merci aussi Alain. C'est très bien. Je crois que ce qu'il y a, c'est que je suis tout à fait d'accord et nous sommes loin de l'autonomie. Et moi qui suis de la partie agricole, et je dirais de l'IGNAM, si bien qu'on aurait dit que c'est un complot que j'ai monté avec Alain pour qu'il puisse parler de ce produit-là. Quand je vois que j'ai travaillé 35 ans à essayer de faire produire de l'igname et quand je vois ce que nous avons maintenant, eh bien, vous voyez, je peux pleurer, mais sinon, il faut que je continue à travailler. Ce sera difficile. Alors, il y a des choses que nous n'avons pas dites, c'est le manque de terre. Là, maintenant, le peu de terres agricoles, on les prend pour faire des routes ou des constructions. Et ça, il faut comprendre que c'est l'un des défis que nous avons, c'est la disparition des terres agricoles. Et surtout des terres mécanisables. Il faut que nous puissions produire quand même à des prix raisonnables. Si la ménagère ne comprend pas que l'agriculteur a des difficultés pour produire à ce coût raisonnable, eh bien, nous n'allons pas arriver. Il faut donc mobiliser, à mon avis, nos ménagères, qu'elles puissent favoriser les produits locaux.
Radio Sofaya Altitude,
la radio de votre cœur.
Je suis également passé très récemment à l'INSEE en tant que chef de projet, donc j'ai conduit quand même certaines études, et notamment on a conduit une étude sur la consommation d'espace liée à l'habitat. Entre 2010 et 2019, la Guadeloupe est la région française où on a eu l'augmentation de la consommation d'espace liée à l'habitat les plus importantes. Je crois que c'était 16%. Cette question de la surface agricole utile, d'ailleurs, qui diminue parce qu'il y a davantage de construction. Beaucoup de construction, notamment des résidences secondaires par rapport aux activités touristiques, par rapport au phénomène de décohabitation également, puisque de plus en plus, on a une taille moyenne des ménages qui se réduit. Donc on a moins de population, mais on a un besoin de logement supérieur pour pouvoir loger cette population, puisque les gens en fait vivent moins nombreux dans un logement.
Pas facile de mettre en place cette autonomie alimentaire avec ce gâchis des terres agricoles qu'il y a ici chez nous.
Par rapport au fait qu'on soit loin de l'autonomie, on consacre de plus en plus de surface à la construction. C'est moins de surface de disponible pour pouvoir mettre en culture et avoir cette question de souveraineté alimentaire. On en est loin, comme l'a souligné M. Plaisir.
C'est vrai que j'entends souvent cet argument. Il faut que nous soyons plus patriotiques, que les ménageurs achètent Guadeloupéens. Bon, quand tu regardes les chiffres, tu vas parler de l'INSEE, il y a 34% de Guadeloupéens qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois. Ces personnes-là, ils ne vont pas acheter ton igname. J'ai vu des ignames à Noël qui coûtaient 6 euros. Le kilo, il venait de Guadeloupe. J'ai vu à côté des ignames de Costa Rica qui étaient 3 euros. Je n'ai pas acheté ce des ignames. J'ai acheté aucun. J'ai dit non, on ne peut pas accepter les profitations. Il faut prendre en compte que même s'il y avait plus de production, si tu produis que tu n'arrives pas à vendre, tu vas pas persister. Parce que je vois, les ignobles, je me demande qui les achète. Ça devient un luxe de manger guadeloupéen. Donc il y a un réel problème de pouvoir d'achat. Et comment faire en sorte de donner du pouvoir d'achat aux gens? Eh bien, on peut faire grève, demander des salaires, mais aussi on peut aussi aider le producteur en baissant le prix des produits. Bon, je pense qu'il y a des terres quand même en Guadeloupe. On abandonne beaucoup de terres. Bon, la banane, il y a le chlordécone. Mais bon, il y a des endroits où on fait de moins en moins de canne. Il y a des terres qui sont jachères pratiquement. On voit des terrains, il y a quelques bœufs qui sont attachés là. Bon. Donc, il faut vraiment une volonté politique des endroits. On dit, les terres-là, vous ne les touchez pas. Les terres agricoles, on ne touche pas les terres agricoles. Donc, parce que les gens veulent manger les trucs de la Guadeloupe. Mais tout coûte plus cher. Vous allez dans un supermarché, kilo de poisson surgelé, c'est 4 euros. Comment voulez-vous que la personne achète un kilo de poisson à 16 euros quand il a 1000 euros par mois? À mon avis, il faut faire ce que les pays qui ont développé l'agriculture ont fait, c'est-à-dire donner la priorité à la production guadeloupéenne. Et là, il n'y a pas de priorité. Hein. C'est l'importateur qui a la priorité. L'importateur, il achète de plus en plus. On a parlé du groupe Bernard Ayot, mais il achète de plus en plus ailleurs. Les Ouassou qui ont disparu viennent du Bangladesh. Ils vont chercher l'endroit où c'est le moins cher dans le monde pour vendre. On ne peut pas s'en sortir. Hein. La production va disparaître, à mon avis, si on ne fait pas quelque chose.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas. On parle de deux productions essentielles pour le pays, soi-disant, mais qui ne sont pas rentables. Et en même temps, on dit qu'on ne peut pas produire plus de produits vivriers parce que ce n'est pas rentable. Alors pourquoi d'un coup, ce qui n'est pas rentable peut être produit et ce qui est peut-être plus essentiel pour nous, plus intéressant pour nous, ne peut pas être produit?
Pour l'instant, ce n'est pas le pouvoir politique qui décide. C'est-à-dire que ceux qui produisent, prenons les gens qui produisent la banane, ils font de la banane parce qu'ils ont historiquement, ils ont trouvé ça et ils ont débouché. C'est-à-dire qu'ils arrivent à vendre leurs bananes parce que ces bananes sont subventionnées. Ils continuent parce qu'ils savent que, bon, vous avez entendu souvent parler, oui, la PAC, des débats sur le président, l'Europe donne l'argent. Bon, mais l'Europe donne de moins en moins. Donc, ils produisent. Aucun pouvoir politique ne dit, bon, ben, on va faire moins de bananes, on va faire plus d'igname. Donc, les gens continuent à produire. La canne, c'est pareil. Les gens ont l'habitude d'envoyer leur canne à Gardel ou à Maïgalan. Eh bien, ils font ça, ils continuent à le faire. Mais ceux qui restent, ils essaient de négocier un peu plus de revenus. Mais c'est incompatible de dire il faut, c'est pas rentable. Mais pour les producteurs, pour eux, c'est encore rentable. Pour nous, avoir une vision économique, on sait que ces productions vont disparaître à terme. Mais eux, ils ne sont pas dans le futur, ils sont dans le présent. Dans le présent, je mets mes bananes dans le conteneur, ça va en France et j'ai de l'argent.
Effectivement, pour eux, c'est rentable parce que du coup, ils sont subventionnés. Puisqu'ils ont les subventions, ça leur rapporte de toujours avoir ces productions. Donc, c'est par rapport à la politique agricole qui est menée actuellement. Si on leur retire les subventions, ben, carrément, ils arrêtent de produire parce que là, effectivement, ils seraient à perte. Donc, c'est un système qui est entretenu d'une certaine façon avec la politique agricole qui est menée actuellement par l'Europe et la France.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces subventions vont aussi disparaître. Pourquoi? Parce que j'expliquais que l'Europe prélevait, par exemple sur la banane, une taxe, enfin le droit de douane. Bon, mais vous avez vu, ça a baissé parce que comme on est dans un système mondial où on veut supprimer les taxes, l'Europe même a baissé. Et dans l'Europe, tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts que la France. Il y a des pays qui n'ont pas de colonies. L'Allemagne n'a rien à foutre de la Guadeloupe, la Roumanie, la Pologne et tout ça. Et vous voyez que les décisions sont prises en Europe à la majorité qualifiée. Dernier traité, la France était contre, mais il y avait une majorité, et bien le traité a été signé. Donc les Allemands, les Roumains, tout ça, ce qui les intéresse, c'est acheter le sucre le moins cher, au meilleur prix, et la banane le moins cher. Ils continuent à le faire, les taxes ont baissé. Les gens les mieux informés, qui sont les béquets martiniquais, et ils ont commencé à acheter des terres en Afrique. Il faut qu'on privilégie notre marché intérieur. Les élus, si je sais, avaient la bonne volonté, ils n'ont même pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Ils ont le pouvoir de faire des routes, des lycées, des écoles. Mais ça ne va pas plus loin que ça, hein, la décentralisation. C'est pour ça que les deux sont liés, l'aspect économique et l'aspect politique. Quoi.
Qui parmi vous sait que la banane qu'on consomme en Guadeloupe, elle sort de Paris? Est-ce que vous le savez? Puisqu'on a des quotas écoulés en Europe, la banane, elle part en France, à Paris, et elle est revenue en Guadeloupe. Et c'est cette banane qu'on consomme en Guadeloupe.
Celle qu'on achète en magasin. donc le thème autonomie économique de la Guadeloupe. Et si j'ai bien compris, on devait réfléchir à ce thème en reliant tout ça avec un développement plus intégral, intégré et durable. J'ai essayé d'analyser la question dans son ensemble et je trouve qu'on tourne beaucoup autour du pot parce qu'effectivement, je pense que tout est une question de pouvoir politique, pouvoir de décision, d'action. Autonomie économique, c'est vrai qu'il faut manger, mais il faut aussi l'énergie pour produire ce qu'on mange. Et ne serait-ce que voir comment nos forces vives sont traitées, et ça me nuise de plus en plus. Donc, je ne sais pas où on pense aller si des gens ne résolvent pas ce problème-là. Alors, si je peux m'éteindre un petit peu, je parlerai de notre jeunesse qui a vraiment une perte de repères. Et je pense que c'est vraiment un des problèmes les plus importants. L'inadéquation de notre territoire avec les décisions qui sont prises est vraiment criante. Moi, je suis très sensible à la nature et quand je vois comment les arbres sont traités, comment ils sont taillés maintenant par souci de rentabilité, de ne pas revenir avant une certaine période, je me dis, mais un enfant qui grandit là-dedans, il ne va pas comprendre pourquoi un arbre est sur un côté, ils sont mal taillés, il n'y a pas de fruits, on nous met des arbres qui viennent je ne sais pas où, qui n'ont même pas de fruits au pied des résidences. On enlève tous les petits espaces verts qu'il peut y avoir, donc les jeunes n'ont aucun endroit où aller. Quelle que soit la distraction, maintenant, il faut payer le plus souvent, mais bon. Après, on me dira qu'on peut toujours trouver, hein, mais il y a des choses qu'on trouve à Froison, donc on devrait pouvoir trouver des espaces verts à Froison aussi, même près des ensembles résidentiels. Il y a quelque chose qui me choque aussi, moi, c'est les affichages avec quantité d'alcool de toutes sortes. Il me semble même que cet affichage n'est peut-être pas réglementaire. Donc je ne sais pas s'il y a une volonté de le réglementer, en Guadeloupe en tout cas. Et ça, ça fait beaucoup de mal. Bon, je vais peut-être m'avancer sur le problème de l'eau. Je sais que c'est très politique et qu'en cette période d'élection municipale, donc ça l'est encore plus. On demande à des familles d'acheter de l'eau, des packs d'eau. On est obligé d'acheter des packs d'eau, même si l'eau est censée être potable, parce que toutes les alertes qu'il y a pour ne pas consommer, souvent elles sont lancées après qu'il y ait eu un problème. Et quand on revient dessus, ben, l'eau est peut-être déjà potable. Donc on n'a pas le choix, on est obligé d'acheter de l'eau à boire. Qui c'est qui profite de la vente de l'eau ?
On se rend bien compte que l'Assemblée participe hein, avec le jeu des questions-réponses.
De destruction de nos coraux ? Mais ça n'alerte personne que sur 18 stations d'épuration, il y en a 11 qui ne fonctionnent pas. Et il y a déjà de l'argent qui a été versé pour ça. On a dépensé nos impôts, l'argent de nos impôts, pour faire des constructions qui ne servent à rien. Personne ne trouve ça bizarre et on va nous empêcher d'aller nous baigner si oui, il y a une pollution et tout. Alors, quel repère on donne à nos enfants ? Il y a même des jeunes maintenant qui ne veulent plus avoir d'enfants. Ils ne veulent pas avoir d'enfants. Ils sont déçus, ils sont dégoûtés. Alors moi, je pense que quand on est installé dans son confort, on perd la notion qu'il y a des choses qui ne sont pas normales.
Interpellation judicieuse et qui rentre aussi dans la vision qu'on a de notre pays en réalité. Parce que l'autonomie économique, ce n'est pas simplement manger, boire, produire et tout. C'est aussi la vision globale qu'on a du pays de Guadeloupe. Ce que vous venez de dire interpelle et doit nous interpeller comme Guadeloupéens pour entrer dans un schéma, c'est une formule globale de notre pays, un modèle pour être responsable de notre pays. Mais en fait, ça pose un problème non seulement de la responsabilité du politique, mais de notre responsabilité aussi individuelle et collective en tant que citoyen. C'est la raison pour laquelle la Commission Justice et Paix s'efforce de sensibiliser le chrétien, mais aussi les hommes et les femmes de bonne volonté.
Quelle issue avons-nous pour parvenir à mettre en place tout ce dont vous parlez? Parce que la politique n'intervient pas, personne n'intervient, à part nous faisons des discussions. Mais est-ce que vraiment il y a un régime adapté pour la Guadeloupe pour pouvoir faire tout ce que vous dites?
La réponse, elle est politique. Hein. Alors souvent, quand les gens disent les élus, comme si les seules personnes qui faisaient de la politique, c'était les élus. Les élus sont élus, mais il y a des gens qui font de la politique. Moi, je fais de la politique, hein. Mais je ne suis pas élu. Bon, donc il y a aussi une prise de conscience de la population. Et des réunions de ce type-là, ce sont des réunions qui doivent permettre aux gens de réfléchir. Parce que si on continue à voter pour le même système, le même modèle, et qu'on ne veut pas changer de modèle. On veut voter pour des gens qui disent ah oui, votez pour moi, réparer ou tard, réparer les bâtiments, notre travail, tout ça. Moi j'étais à des élections où des gens m'ont dit pourquoi on fait pour moi. Le système, il faut le changer. Mais pour le changer, eh bien, il faut que les gens lisent des programmes politiques et que les gens votent aussi, pas simplement par sympathie, pas par, parce que celui-là il est sympathique, c'est parce qu'il y a un programme et il faut que les gens s'impliquent, il faut que la population s'implique. Si on est citoyen, on doit s'impliquer pour faire changer les choses. Quoi. On a parlé d'environnement, oui, dans le parti politique que je suis, on est en train de dénoncer des choses, des carrières. Il y a eu un scandale à D, et il a failli mourir. Mais il y a Bastère aussi, à Gouvert. Si vous passez là, vous voyez tout. Mais les gens passent là. Aucun candidat aux élections ne parlera de la carrière. Parce qu'on a donné, la concession à un capitaliste qui s'appelle Ayot, celui qui est mort.
Ah, c'est le frère ?
C'est lui-même. Bon, ça appartenait à Faval, et maintenant c'est Ayot. C'est pas le problème, l'environnement. Le problème, c'est le profit. Et si... personne n'a conscience dans le programme, il faut parler de respect de l'environnement ou tout ça, eh bien, on ne s'en sort pas, on va à la catastrophe.
La première chose, c'est la prise de conscience. La prise de conscience individuelle et la prise de conscience collective. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de choix. Pendant 20 ans, 30 ans, on a pu dire il y a des choix, on peut faire ceci. Aujourd'hui, nous sommes au bord du gouffre. C'est ça la réalité. Le chrétien est l'homme de bonne volonté, mais nous sommes chrétiens ici, là. Il faut que nous prenions tous conscience, ce pays-là, celui dans lequel nous vivons, eh bien, il est au bord du gouffre. Alors, au niveau environnemental, c'est vrai, mais au niveau aussi du simple manger, quoi, du simple boire. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Et c'est ça que nous voulons, nous, Commission Justice et Paix du diocèse, sensibiliser. Mais il ne faut pas que ça reste là entre nous. Il faut que ce que vous entendez aujourd'hui, eh bien, vous le rapportiez dans vos communautés, dans les endroits où vous vivez. Effectivement, c'est en aidant chacune et chacun à prendre conscience qu'on pourra arriver au niveau citoyen à ce qu'on change les choses, emmener chacun et chacune, lorsqu'il fait un choix, de faire un choix éclairé, un choix de citoyen responsable. Alors moi, j'ai l'habitude de dire que l'aliénation, c'est le plus grave des crimes, je le disais tout à l'heure. Mais c'est ça, il faut sortir de cette aliénation qui vient de ce qu'on nous dit, que nous vivons en le consommant et que nous ne laissons rien pour nos enfants. Et c'est ça notre réalité objective aujourd'hui. Et c'est ça que nous souhaitons, nous, à la Commission Justice et Paix, que chaque citoyen, mais chaque chrétien, puisque nous sommes des chrétiens aujourd'hui, là, prenne conscience qu'on ne pourra pas agir s'il ne prend pas conscience, si elle ne prend pas conscience que individuellement et collectivement, nous pouvons faire des choses. Ça veut dire se rassembler, émettre des idées, avoir le courage de la responsabilité. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Avoir le courage. Maurice et Alain vont faire tout ce qu'ils voudront. Tout ce qu'ils pourront. Ils pourront dire tout ce qu'ils voudront. Ils pourront dire ce qu'ils voudront. Ils ne seront pas les seuls à dire. Mais si nous ne prenons pas nos responsabilités, il ne faut pas nous dire après, eh bien, pas te connaître. Il ne faut pas nous dire après, eh bien, pas te savoir. Et l'habit est arrivé, si tu es en nous, ah, nous pas crier bon Dieu. Il y a une formule, ce n'est pas dans la Bible, hein, mais aide-toi. Et le ciel t'aidera.
Radio Sofaya, 88.5, toujours plus proche de vous.
Autonomie économique de la Guadeloupe. Nous continuons avec nos intervenants sur cette conférence débat qui a eu lieu à la salle paroissiale de Prise d'eau au mois de janvier. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Nous allons bientôt terminer la première partie de l'émission et nous reviendrons la semaine prochaine pour la deuxième partie et fin de l'émission. Nous continuons encore pendant quelques minutes à écoutez attentivement ce qui s'est dit ce jour-là.
On dirait qu'on est payé pour être aliéné. Parce que toutes les aides que je vois qui arrivent de part et d'autre, quelquefois je me demande à quoi ça sert. Tout à l'heure, Alain Plaisir a parlé de création de fonds d'intervention. Je voudrais qu'il nous explique un peu plus sa pensée là-dessus.
Avant ça, je voudrais que tu répondes à la question de Albert Monchard sur le problème.
Oui, oui. Comme il y a des quotas en fait à écouler vers l'Europe, il y a une certaine quantité de bananes envoyées en Europe. Donc pour remplir ces quotas, la banane elle est envoyée en France, Donc elle est comptabilisée dans les quotas et après une partie revient en Guadeloupe pour la consommation, comme monsieur l'a bien signalé, dans les magasins. En fait, c'est cette banane qu'on retrouve qui est passée par Paris et qui est revenue. Mais au départ, pour écouler les quotas vers l'Europe, elle est comptabilisée dans les quotas envoyés vers l'Europe. Voilà, pour percevoir la subvention liée au quota à écouler.
Je ne comprends pas, une production de bananes peut être comptabilisée au niveau de l'Europe, toute la partie qui revient à la Guadeloupe reste sur place. C'est pour faire fonctionner les bateaux, les affaires comme ça ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière?
J'ai eu deux idées par rapport à ce que vous avez dit. Déjà, je me suis dit, pourquoi pas mettre en place, par exemple, une coopérative pour des produits agro-transformés avec un label peut-être AOC. En revers, ce serait une partie pour l'éducation des enfants. C'est-à-dire les enfants participeraient à de l'agriculture, des projets d'agriculture, d'agro-transformation.
Alors, cette histoire de bananes qui revient, nous sommes une région de l'Union européenne. Les bananes vont en Europe pour exporter. La plupart du temps, ça arrive dans une mûrisserie qui appartient au béquet. Eurodome, justement, a acheté des mûrisseries, d'ailleurs avec l'argent des régions de Guadeloupe et de Martinique. La région Guadeloupe a donné l'argent au béquet pour faire une mûrisserie. Et dans cette mûrisserie, il n'y a pas seulement la banane, il y a des fruits français. Tout ça, il faut savoir ça aussi. Hein. Bon. Quand c'est dans la mûrisserie du béquet, et c'est lui-même qui fait l'importation, rien ne lui empêche de faire venir de la banane de la mûrisserie en Guadeloupe. Comme si cette banane allait de Rungis en Bretagne. Donc, ça sort de la mûrisserie, ça vient ici. Et ça explique pourquoi les bananes coûtent ici plus cher qu'en France. Les bananes de Guadeloupe coûtent plus cher en Guadeloupe qu'en France. C'est une minorité, hein. C'est pas toute la banane, hein. C'est une petite quantité. La plus grosse quantité est consommée en France. Et ça pose aucun problème technique, puisque il n'y a pas de frontière. Quand on dit qu'il n'y a pas de frontière, la libre circulation de marchandises, la banane est en France, ça vient en Guadeloupe, ça pose aucun problème. C'est pas la douane qui va l'empêcher, parce que c'est une banane française. Il faut organiser le marché guadeloupéen. C'est-à-dire qu'ici, on vend n'importe quoi. On peut vendre un avocat 5 euros, 7 euros. Il n'y a pas d'organisation. Donc, des prix qui soient fixés. Bon, alors, si vous ne voulez pas respecter le prix, on ne va pas vous mettre en prison. Mais vous saurez que vous n'aurez pas ce complément de recettes qu'on va donner à ceux qui sont dans une organisation. Donc, on parle de sa coopérative, mais une organisation professionnelle.
Coopérative, vous pensez qu'elle pourrait faire baisser les prix? En réalité, elle ne va pas faire baisser les prix. Parce que vous avez un coût de la vie en Guadeloupe. Au Chili ou au Guatemala, c'est 1 dollar par jour. En Guadeloupe, il faudra suivre aussi la réglementation française. 11,50 € par heure. La coopérative peut régler le problème entre elles, mais le prix qu'il va vendre à l'extérieur, ce sera toujours le prix qui sera lié au coût de la vie en Guadeloupe, à la réglementation du travail en Guadeloupe. Les grands importateurs, quand ils voient qu'un produit est compétitif, qu'est-ce qu'ils font? Ils font baisser le prix, hein. Ils préfèrent vendre à perte sur un produit et récupérer sur un autre parce qu'ils vont couler votre entreprise. Et ils ont la capacité de couler votre entreprise. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de mettre des barrières douanières qui protègent le produit guadeloupéen. Alors, il faut trouver une technique. La question fondamentale pour nous, c'est de protéger notre production locale et donc créer des barrières qui permettent que nos produits soient compétitifs par rapport aux produits qui rentrent dans le pays. Parce qu'il ne s'agit pas de se fermer. Il s'agit simplement que nous puissions vivre des produits que nous avons sur le plan local.
Je voulais avoir votre avis. Je fais partie d'un groupe de personnes privées qui ont porté une réflexion justement sur toute cette réalité et qui ont décidé de mettre en place un fonds de réserve. Je ne peux pas vous donner tout le cadre juridique, etc., etc., parce que c'est en train de se faire. Je vais recevoir un mail qui va expliquer un peu tous les tenants aboutissants. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose pour permettre, par exemple, d'intervenir? Bon, l'exemple, par exemple, de l'entreprise BMW qui était à vendre, notre réflexion, c'était que, bon, pourquoi pas nous? Pourquoi on ne peut pas intervenir? Donc, si les Guadeloupéens mettaient chacun une somme, si on ne pouvait pas arriver à avoir un fonds de réserve pour intervenir dans cette économie.
L'argent viendrait d'où, ce fonds de réserve? Oui, donc c'est de l'argent, c'est comme une épargne, les gens mettraient de l'argent dans un fonds. Pourquoi pas? Ce fonds-là, est-ce qu'on est sûr qu'il sera alimenté d'une manière pérenne, c'est-à-dire tout le temps?
Oui, c'est-à-dire que
tout est prévu là. Je ne peux pas vous donner plus d'arguments, mais c'est vraiment très cadré.
Donc il faut beaucoup d'argent. Et cet argent-là, vous n'allez pas le prendre dans les poches des Guadeloupéens, vous irez le prendre dans les poches de l'importateur. C'est-à-dire que l'importateur, il fera moins de profit. Et c'est une manière aussi de mettre en place un système un peu plus juste, quoi. C'est-à-dire que vous avez un système qui est basé sur la profitation maintenant. Si vous ne cassez pas ce système-là, il va de plus en plus aller acheter dans des endroits où c'est le moins cher. Par exemple, les vêtements, à un moment, ils faisaient les vêtements en Chine. Maintenant, ils les font en Éthiopie. Ils vont chercher dans l'endroit où les main-d'œuvre est la moins chère, au Bangladesh, pour vendre l'eau. Donc, c'est bien hein, ce qu'on vous dit là. On peut le faire, mais ce n'est pas suffisant. Parce que c'est des sommes assez colossales. Et en France, il y a des gens qui sont riches. Hein, mais ce système-là que j'explique là, c'est le système de la PAC, la politique agricole commune. C'est-à-dire, on prélève ce qu'on appelle les prélèvements agricoles et on donne des compléments de recettes aux gens. Et ça a permis à l'Europe d'être excédentaire en produits agricoles. Mais s'il n'y avait pas ce système-là, eh bien, les États-Unis auraient balayé le blé, il n'y aurait pas de blé en France, on aurait fait du blé du Canada et des États-Unis. Donc il faut un système de protection. Et la protection, et Trump donne l'exemple maintenant. Trump, c'est comme le pays le plus puissant du monde. Et Trump dit, vous m'emmerdez, tel produit, je vais mettre 50% de loi de douane. Bon. Et nous, parce que l'Europe dit libre circulation, tout rentre en Guadeloupe. Ça vient de partout, les oiseaux viennent du Bangladesh, Zinia vient de Costa Rica, les pois du bois viennent du Pérou, enfin bref, on est en train de disparaître parce qu'on n'est pas protégé. Donc d'accord pour un fonds de réserve, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut faire plus que ça, il faut faire une protection aux frontières.
Alors, il faut voir aussi le fonds de réserve, pourquoi ? Parce que par exemple, si vous faites un fonds de réserve pour des produits importés, la BMW elle est importée en Guadeloupe, hein. Il faut tenir compte aussi du marché plus tard. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte par ça. Si c'est un fonds de réserve pour de la production guadeloupéenne, à la limite, ce sont des produits guadeloupéens qui naissent en Guadeloupe. Mais par exemple, on fait un fonds de réserve pour acheter un magasin de BMW. Le marché guadeloupéen, il n'est pas extensible, première chose. Nous sommes d'accord. Et ensuite, ce sont des produits importés. Qu'est-ce que ça va donner en fait ? Il faut voir est-ce qu'on ne va pas perdre de l'argent aussi lorsqu'on aura fait des fonds. Et puis, deuxième chose. Alain parlait de ce que fait Trump aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qu'il fait Trump, fondamentalement ? Il voit que l'Amérique est en crise en réalité aujourd'hui. Le dollar américain qui était la monnaie de référence, et je parle sous le contrôle d'économistes, et maintenant le dollar a perdu de sa valeur, est en train de perdre sa valeur. Pourquoi ? Parce que les Chinois et les BRICS sont en train d'essayer de mettre une monnaie de référence qui deviendrait une monnaie internationale de référence. Je parle sous le contrôle de l'économiste. Hein. Si je me trompe, tu m'arrêtes, hein, y a pas de problème. Si je me trompe, vous m'arrêtez. Or, justement, la balance des paiements américaine, la dette américaine, elle est tenue par les Chinois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était 30 000 milliards de dollars, si je ne m'abuse. Hein. Oui, mais à un moment, ça a été 15 000 milliards de dollars. Maintenant, il paraît que ce soit 30 000 milliards de dollars. Ça veut dire que la monnaie américaine, qui est la monnaie de référence internationale, les Américains sont en situation de perte. Il y a une concurrence d'une autre monnaie. Ce ne sera plus la monnaie de référence. Les gens, donc, vont pouvoir se débarrasser du dollar. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça veut dire que la banque américaine elle-même, elle va perdre. Or, les Chinois, et ça, je l'ai lu, sont en train de vendre, ont vendu 8% de la dette américaine qu'ils possèdent. Et donc Trump, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Il est en train de se rendre compte de la situation de son pays, qui n'est plus aussi florissante que ça et qui est fragile. Alors ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont tout ça, mais l'économie américaine, elle commence à être fragile.
Très intéressant à écouter, c'est super, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Mais là, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'émission. Force pour Zot, restez à l'écoute, à très bientôt.
Retrouvez chaque samedi 10h sur Radio Sofaya Altitude, l'émission Justice et Paix, animée par Domi.
École, catéchisme, à Sainte-Rose même.
Oui, nous étions au catéchisme au bout le mardi.
Une émission en partenariat avec Radio Bain-Sabiel. Justice et Paix donne la parole au monde associatif, politique, social, sportif, culturel.
Je crois qu'il faut quand même que les
on puisse remettre l'agriculture aux mains des enfants.
Le sport est un vecteur de relations sociales.
Justice et paix, les problématiques sociétales avec une vision chrétienne.
Aussi marcher aussi vers Dieu, marcher vers un idéal, marcher vers un but.